Chapitre 4. Le grand et sombre secret de mon père. Me voici à l'âge de 9 ans, juste avant que commence toute cette excitation dont je parlais. Je n'avais alors pas le moindre souci. Vous apprendrez quand vous serez plus âgé, comme moi-même je l'ai appris cet automne-là, qu'il n'existe pas de père parfait. Les adultes sont des créatures compliquées, pleines de bizarreries et de secrets. Certains ont des bizarreries plus bizarres et des secrets plus secrets que les autres, mais tous, y compris nos propres parents, ont de leur sac deux ou trois petites habitudes qui nous laisseraient bouche bée si nous les connaissions. La suite de ce livre raconte l'étrange aventure dans laquelle nous a entraîné une habitude très secrète et très intime qu'avait mon père. Tout a commencé un samedi soir. C'était le premier samedi de septembre. Aux alentours de 6 heures du soir, mon père et moi avions dîné tous les deux dans la roulotte, comme chaque jour. Puis, je suis allé me coucher. Mon père m'a alors raconté une très belle histoire et m'a embrassé en me souhaitant une bonne nuit. Je me suis endormi aussitôt. Pour je ne sais quelle raison, je me suis réveillé au cours de la nuit. Je suis resté allongé, immobile, essayant d'entendre la respiration de mon père dans la couchette au-dessus de la mienne. Mais je n'entendais rien du tout. Il n'était pas là, j'en étais certain. Cela signifiait qu'il était retourné dans l'atelier pour finir un travail. Il le faisait souvent après m'avoir bordé. J'ai tendu l'oreille, à l'affût des bruits habituels de l'atelier, le cliquetis des pièces de métal qui s'entrechoquaient ou des coups de marteau. Ces bruits dans la nuit avaient l'immense pouvoir de me rassurer parce qu'ils voulaient dire que mon père était tout prêt. Mais cette nuit-là, aucun son ne venait de l'atelier. La station-service était silencieuse. Je me suis levé de ma couchette et j'ai trouvé une boîte d'allumettes à côté de l'évier. J'en ai craqué une et j'ai levé la flamme vers la drôle de petite pendule accrochée au mur, à côté de la bouilloire. Elle indiquait 11h10. Je suis allé à la porte de la roulotte. « Papa !» j'ai dit doucement. « Papa, tu es là ?» Pas de réponse. Il y avait une petite plateforme en bois à l'extérieur de la porte, qui était à peu près à 1m20 au-dessus du sol. Je suis resté là, debout, et j'ai regardé attentivement autour de moi. « Papa !» j'ai appelé. « Où tu es ?» Toujours pas de réponse. En pyjama et pieds nus, j'ai descendu les marches de l'escabeau qui donnait accès à la roulotte, et je suis allé voir dans l'atelier. J'ai allumé la lumière. La vieille voiture sur laquelle nous avions travaillé toute la journée était toujours là, mais pas mon père. Je vous ai déjà dit que lui-même n'avait pas de voiture. Il était donc impossible qu'il ait pris le volant pour aller se promener. De toute façon, il n'aurait jamais fait ça. J'étais certain qu'il ne m'aurait pas laissé seul, volontairement, la nuit, dans la station-service. J'ai alors pensé qu'il devait s'être brusquement évanoui à cause d'une horrible maladie ou qu'il s'était assommé en tombant. Si je voulais le retrouver, il me fallait de la lumière. J'ai pris la torche sur l'établi de l'atelier. Je suis allé voir dans le bureau, je suis ressorti et j'ai regardé derrière le bureau et derrière l'atelier. J'ai couru jusqu'aux toilettes, elles étaient vides.
« Papa !»
j'ai hurlé dans le noir.
« Papa, où tu es ?»
Je suis revenu à la roulotte en courant. J'ai braqué le rayon de la torche sur sa couchette pour être absolument sûr qu'il n'y était pas. Il n'y était pas. Je suis resté à l'intérieur de la roulotte plongé dans l'obscurité et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un début de panique. La station-service était très loin de la ferme la plus proche. J'ai pris la couverture de ma couchette et je l'ai mise sur mes épaules. Puis je suis sorti et je me suis assis sur la plateforme, les pieds sur la dernière marche de l'escabeau. Il y avait une nouvelle lune dans le ciel. De l'autre côté de la route, le grand champ s'étendait, pâle et désert. Le silence était mortel. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. Peut-être une heure, peut-être deux. Mais je ne me suis jamais assoupi. Je voulais écouter à tout moment. En tendant bien l'oreille, j'aurais peut-être pu entendre quelque chose qui m'aurait indiqué où se trouvait mon père. Enfin, venant de très loin, j'ai entendu un faible bruit de pas sur la route. Les pas se rapprochaient de plus en plus.
Tap, 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 tap.
Était-ce lui ? Ou quelqu'un d'autre ? J'étais toujours assis, immobile, observant la route. Mais je ne voyais pas très loin. Elle se fondait dans une obscurité brumeuse à peine éclairée par la lune.
Tap, 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 tap.
Les pas se rapprochaient. Puis, émergeant de la brume, une silhouette est apparue.
C'était lui.
J'ai sauté au bas des marches et couru vers la route pour aller à sa rencontre.
Danny, s'est-il écrié. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible, ai-je répondu.
Il a pris ma main dans la sienne et m'a ramené en silence vers la roulotte. Puis il m'a abordé dans ma couchette. Je suis vraiment désolé, m'a-t-il dit. Je n'aurais jamais dû faire ça, mais d'habitude, tu ne te réveilles jamais la nuit.
Où tu étais, papa?
Tu dois être très fatigué.
Je ne suis pas du tout fatigué. On ne pourrait pas allumer un peu la lampe?
Mon père a approché une allumette de la mèche de la lampe suspendue au plafond, et la petite flamme jaune a jailli en remplissant la roulotte de sa lueur pâle.
Si on buvait quelque chose de chaud, m'a-t-il proposé.
Ah oui, s'il te plaît.
Il a allumé le réchaud et a posé la bouilloire dessus. J'ai décidé quelque chose, m'a-t-il dit. Je vais te révéler le plus grand et le plus sombre secret de toute ma vie.
J'étais assis dans ma couchette et je regardais mon père.
Tu m'as demandé où j'étais allé. La vérité, c'est que j'étais dans les bois de Hazel.
Les bois de Hazel ? C'est à des kilomètres ?
10 kilomètres exactement, a précisé mon père. Je sais que je n'aurais pas dû y aller et je suis vraiment, vraiment désolé.
Mais j'en avais une telle envie.
Sa voix se perdit dans le silence.
Mais pourquoi tu voulais aller si loin tout d'un coup ?
Avec des gestes très lents, il a versé dans 2 tasses une cuillerée de poudre de cacao et de sucre, remplissant chaque cuillère comme s'il s'agissait d'une préparation pharmaceutique.
« Tu sais ce que veut dire braconner ? » m'a-t-il demandé.
« Braconner ?
Non, pas vraiment. »
« Ça veut dire aller dans les bois en pleine nuit et revenir avec quelque chose à mettre dans la marmite. » Ailleurs, les braconniers braconnent toutes sortes de gibiers, mais ici, ce sont toujours des faisans.
« Tu veux dire les voler ?»
me suis-je exclamé, atterré.
« Nous, on ne voit pas les choses comme ça, » a répondu mon père. « Braconner est un art. Un grand braconnier est comme un grand artiste. »
« C'est vraiment ce que tu es allé faire dans les bois de Hazel, papa ? Braconner des faisans ?»«
Je suis allé pratiquer cet art, » a-t-il dit. « L'art du braconnage. »
C'était un choc pour moi. Mon père ? Un voleur ? Cet homme si doux, si charmant. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse s'introduire dans les bois la nuit pour capturer des animaux qui valaient de l'argent et qui appartenaient à quelqu'un d'autre.
« Lobou ! » lui ai-je dit.
Ah, très bien. Il a versé l'eau dans les tasses et m'a apporté la mienne. Puis, il est allé chercher la sienne avant de revenir s'asseoir au pied de ma couchette.
Ton grand-père, m'a-t-il expliqué, c'est-à-dire mon père, était un merveilleux, un mirifique braconnier.
C'est lui qui m'a tout appris dans ce domaine. Il m'a transmis la fièvre du braconnage quand j'avais 10 ans, et depuis, elle ne m'a jamais quitté. Figure-toi qu'à cette époque, tous les hommes du village ou presque partaient dans les bois la nuit pour braconner des faisans. Et ce n'était pas par goût du sport, c'était aussi parce qu'il fallait bien qu'ils nourrissent leur famille. Quand j'étais petit, les temps étaient durs pour beaucoup de gens en Angleterre. Il était difficile de trouver du travail, et certaines familles mouraient littéralement de faim. Et pourtant, à quelques kilomètres de là, dans les bois de l'homme riche, des milliers de faisans étaient nourris comme des princes 2 fois par jour. Alors, pouvait-on en vouloir à mon père quand il sortait de temps en temps et revenait avec un oiseau ou 2 pour que la famille ait de quoi manger ?
Non, bien sûr. Mais nous ne mourrons pas de faim, papa.
Ce n'est pas la question, Danny. Tu n'as rien compris. Braconner est un sport si fabuleux, si passionnant, que quand tu commences, il te rentre dans le sang et tu ne peux plus t'arrêter, tout simplement. Imagine un peu, m'a-t-il dit en sautant de la couchette, sa tasse à la main. « Imagine-toi seul dans ce bois sombre, avec plein de gardes-chasse, cachés derrière les arbres. Des gardes-chasse armés de fusils. Des fusils ? Ils n'ont pas de fusils. Tous les gardes-chasse ont des fusils, Dany. Surtout pour se débarrasser des prédateurs, les renards, les hermines, les belettes qui chassent les faisans. Mais ils tirent aussi sur les braconniers s'ils en repèrent un. Tu plaisantes, papa ?
Pas du tout.
Mais ils ne tirent que dans le dos, et seulement quand le braconnier essaye de s'échapper. Ils aiment bien t'envoyer de la chevrotine dans les jambes à 50 mètres.
Ils ne peuvent pas faire ça, me suis-je indigné.
Ils pourraient aller en prison s'ils tiraient sur quelqu'un.
On peut aussi aller en prison pour braconnage, a fait remarquer mon père.
Il y avait à présent dans ses yeux une lueur, une étincelle, que je n'avais jamais vue auparavant.
Souvent, la nuit, quand j'étais petit, Dany, je suis allé dans la cuisine et j'ai vu mon vieux père penché en avant sur la table pendant que ma mère lui enlevait les plombs qu'il avait dans les fesses avec un couteau à éplucher les patates.
Ce n'est pas vrai.
Et je me suis mis à rire.
Tu ne me crois pas ?
Si, je te crois. À la fin, il était tellement couvert de minuscules cicatrices blanches qu'on avait l'impression qu'il neigeait.
Je ne sais pas pourquoi je ris. Ce n'est pas drôle. C'est horrible.
On appelait ça des fesses de braconnier, a poursuivi mon père. Et il n'y avait pas un seul homme au village qui n'avait jamais subi ça à un moment ou à un autre. Mon père, c'était le champion.
Il est bon le chocolat ?
Très bon, merci. Si tu as faim, on pourrait se faire un festin nocturne, m'a-t-il proposé.
C'est vrai, papa ?
Bien sûr. Mon père a sorti la boîte à pain, le beurre et du fromage et a commencé à faire des sandwichs.
Je vais te raconter un peu ce que c'est que ces prétendues chasses aux faisans, m'a-t-il dit. D'abord, il n'y a que les riches qui font ça. Il n'y a même que les très riches qui peuvent se permettre d'élever des faisans simplement pour s'amuser à leur tirer dessus quand ils sont devenus grands. Ces idiots fortunés dépensent chaque année des sommes énormes pour acheter des bébés faisans dans des élevages. Ensuite, ils les élèvent dans des enclos jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour les lâcher dans les bois. Et là, tous ces jeunes oiseaux, qui se retrouvent en liberté, se promènent ensemble comme des poulets. Ils sont surveillés par les gardes-chasse. On leur donne à manger le meilleur maïs deux fois par jour jusqu'à ce qu'ils soient tellement gros qu'ils ont du mal à voler. Ensuite, on engage des rabatteurs qui traversent les bois en tapant dans leurs mains. Ils font tout le bruit qu'ils peuvent pour amener ces abrutis de faisans vers ces idiots de chasseurs qui les attendent avec leurs fusils. Après, c'est « bang, bang, bang !» et ça tombe de tous les côtés. Tu veux une tartine à la confiture de fraises ? Ah oui, je veux bien. Une à la confiture, une au fromage. Mais papa ?
Quoi ?
Comment tu fais pour attraper les faisans quand tu braconnes ? Tu as un fusil caché là-bas ?
Un fusil ? S'est-il indigné avec une grimace de dégoût. Les vrais braconniers ne tirent pas sur les faisans, Dany. Tu ne savais pas ça ?
Il suffirait de tirer avec un pistolet à amorce dans ce bois pour que les gardes-chasse se précipitent sur toi.
Alors, comment tu t'y prends ?
Ah, a dit mon père. Ses paupières se sont abaissées sur ses yeux comme un voile qui lui donnait un air impénétrable. Il a étalé une épaisse couche de confiture de fraises sur une tranche de pain en prenant tout son temps. Ces choses-là sont de grands secrets. De très grands secrets, en vérité. Mais je pense que si mon père me les a transmis, alors je peux te les transmettre aussi. Ça te plairait ?
Oh, oui. Vas-y, raconte-moi.